avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter certains sujets que nous traitons à l'antenne, surtout n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris. Vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70. Vous nous écoutez en France. Vous composez évidemment le 09 693 693 70. On prendra d'ailleurs dans un instant plusieurs questions après la signature de cet accord de paix historique en Colombie, c'était lundi, entre la guérilla des FARC et le gouvernement. Dans 30 minutes, nous lancerons ce matin le débat sur la révision constitutionnelle en Côte d'Ivoire. C'était l'une des promesses électorales d'Alassane Ouattara. Le texte sera examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. Il sera ensuite débattu à l'Assemblée nationale avant d'être soumis à référendum. Alors si cette réforme passe, l'article 35 sur l'origine des candidats à la présidentielle sera supprimé. Il faut dire que cet article contient les germes des crises qui ont secoué le pays ces deux dernières décennies. Le texte propose également la fin de l'âge maximum pour briguer la magistrature suprême, mais les principales innovations sont incontestablement la création d'un Sénat. D'ailleurs, l'opposition dénonce déjà un affaiblissement de la démocratie puisqu'un quart des membres du Sénat sera désigné directement par le chef de l'État, donc ça ne manquera pas, à mon avis, de susciter des réactions au standard. Et l'autre innovation est la création du poste de vice-président, et sur ce point, l'opposition est également vent debout. Elle y voit un moyen pour le président de la République de choisir son successeur. L'opposition qui n'hésite pas à parler d'une dérive monarchique du pouvoir. Alors que vous inspire ces différents changements? La Côte d'Ivoire a-t-elle finalement besoin d'une nouvelle constitution? Vous nous appelez, vous vous exprimerez sur l'antenne d'RFI, 33 9 693 693 70. Mais d'abord donc vos questions, des questions donc sur cet accord de paix signé lundi en Colombie. Bonjour Francis.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Pointe-Noire, on vous écoute.
Oui, Juan. Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef de la guérilla des FARC, Timochenko, ont signé lundi l'accord historique de paix. J'ai donc deux questions à ce sujet. Rodrigo Londoño, dit Timochenko, restera-t-il à la tête des FARC une fois converti en parti politique? Ensuite, comment Timochenko envisage-t-il la mutation de la guérilla des FARC pour changer leur image auprès des populations en vue du référendum du dimanche prochain?
Effectivement.
Voilà mes préoccupations, Juan, et merci de m'avoir permis de les exprimer.
Bah, c'est normal, on est là pour ça, et surtout ne raccrochez pas. Olga González va tout vous expliquer. Bonjour Olga González.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la Colombie, chercheuse à l'unité de recherche migration et société à l'université Paris Diderot. Timochenko, c'est donc le nom de guerre de celui qui dirige les FARC depuis maintenant 5 ans. C'est lui qui a supervisé d'ailleurs les pourparlers de paix qui ont permis d'aboutir à cet accord signé lundi. Il faut déjà préciser à nos auditeurs que cet accord de paix prévoit la transformation des FARC en parti politique.
Oui, en effet, l'accord de paix prévoit la transformation des FARC en accord politique. La question de l'auditeur relative au fait, est-ce que Timochenko sera le chef de ce parti politique? En fait, la réponse est qu'on ne sait pas encore quel sera le type de formation politique. Les FARC ont fait un sommet il y a une semaine, c'était leur congrès où ils devaient décider de la transformation en parti politique, en mouvement politique, mais ils n'ont pas fait public leur décision. On sait qu'ils cherchent leur nom, on sait qu'ils cherchent à élargir leur mode de représentation, parce que jusqu'à présent, ils sont pratiquement, il n'y a que des hommes au secrétariat, donc l'instance suprême. Ils veulent qu'il y ait des femmes, ils veulent qu'il y ait des personnes indiennes et des personnes noires qui composent une grande composante de la population colombienne.
Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils auront 10 sièges au Congrès pendant les deux prochaines législatures. Il y aura 5 députés et 5 sénateurs.
Oui, en effet, à partir de 2018, ils vont avoir des sièges au Congrès. Ils seront une force politique, effectivement, dans le pays.
Ouais. Des députés, des sénateurs qui pourront voter?
Des députés et des sénateurs qui seront dans une première phase des qui n'auront pas le droit de vote.
Ah, d'accord, ils seront
mais là. Par la suite, on attend, oui, on attend quand même qu'ils se convertissent en mouvement politique. Et c'est tout à fait, enfin, c'est leur intention, ils l'ont annoncé.
Donc rien ne dit, si je vous comprends, Olga Gonzalez, que Timoshenko sera le leader de ce nouveau parti politique ex-FARC.
En effet, on ne sait pas encore quel sera le chef. Il y a plusieurs cadres dans les FARC, il y a plusieurs personnalités qui ont fait partie de cette guérilla vieille de 50 ans, qui peut-être voudront aussi être à la tête de ce parti. Et puis, il faut tenir compte aussi de l'opinion colombienne, de la popularité des FARC, en l'occurrence. Est-ce que des visages nouveaux vont peut-être surgir, justement, pour un petit peu effacer cette très mauvaise image qu'ont les vieux commandants des FARC? Voilà les questions auxquelles on ne peut pas répondre en peur.
Alors, vous le disiez à l'instant, l'opinion est très hostile aux FARC. Francis nous demandait comment ces ex-guérilleros comptaient-ils redorer leur image. Un référendum est prévu dimanche. C'est à l'issue d'ailleurs de ce référendum que l'accord de paix entrera ou non en vigueur. Pour l'instant, les sondages semblent donner le oui vainqueur, hein.
Tout à fait, les sondages donnent le oui vainqueur. Le non, là, enfin, le non a quand même un pourcentage important. Et en fait, les FARC, jusqu'à présent, ils s'abstiennent de trop d'intervenir dans ce débat électoral, dans ce débat pour le plébiscite, le vote du 2 octobre. Ouais. Ils s'abstiennent, ils disent ni oui ni non, parce que, en fait, vu leur grande impopularité, s'ils commencent à faire campagne, ça va être des votes pour le non. Donc jusqu'à présent, c'est aussi pour cela qu'ils n'ont pas annoncé quelle sera leur modalité d'insertion politique dans le futur. Ouais. Au moment, ils se tiennent un petit peu en réserve. Et
ils attendent le verdict des urnes dimanche. Faut tout de même préciser aux auditeurs qu'en cas de victoire du non, l'accord conclu, l'accord signé lundi sera annulé.
Oui, en cas de très improbable victoire du non, cela va remettre en cause les accords. Mais en fait, on est un pas tellement loin qu'il est, extrêmement difficile d'envisager que les FARC reviendront à une force armée. Ils sont vraiment décidés à aller de l'avant dans cette reconversion. D'ailleurs, ce processus de paix, ces dialogues à La Havane, leur ont permis d'avoir un contact plus étroit avec la société colombienne. Ils ont vu les victimes, ils ont vu la diversité des secteurs sociaux et ils se sont un petit peu mis à jour. Ils étaient un peu isolés dans leur montagne.
Alors, Olga Gonzalez, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Colombie. Armel nous appelle, il a également des questions à vous poser sur cet accord de paix. Bonjour Armel.
Bonjour Juan. Justement, à propos de cet accord, quelles dispositions les autorités colombiennes ont-elles prises pour faciliter l'intégration sociale et ces ex-rebelles, la première question?
Alors, bonne question, effectivement. Les ex-rebelles qui vont d'abord, dans un premier temps, déposer les armes, et ensuite, Olga Gonzalez, et ce sera peut-être le principal défi, le défi le plus important, il va falloir évidemment réussir la réintégration de ces guérilleros dans la vie civile.
Effectivement, ça c'est un défi majeur. Alors, il faut savoir aussi que ce n'est pas la première fois qu'il y aura une démobilisation importante en Colombie, il y avait d'autres guérillas dans le passé, il y avait eu aussi des forces paramilitaires dans le passé, donc il y a déjà une expérience de démobilisation. Pour vous donner une indication, entre 2003 et 2015, il y a eu déjà 59 000 démobilisés en Colombie, des groupes armés divers, FARC entre autres, mais aussi des personnes qui voulaient quitter les FARC, mais surtout paramilitaires, etc. Donc il y a cette expérience, et aujourd'hui, par rapport à ce processus en cours, il y aura un certain nombre de mesures qui vont être prises. Il y aura, d'abord, ils vont être séparés, les guerrilleros vont être dans des zones de comment on appelle ça, des rassemblements dans 23 communes de Colombie, ils seront surveillés par l'armée pour les attentats sur eux. Ensuite, pendant 6 mois, ils auront la possibilité de laisser les armes et ils seront accompagnés. Il y aura des subventions, un salaire pendant 2 ans, un accompagnement pour initier des processus de micro-entreprise, ce genre de choses. Pendant 2 ans, il y a un amortissement. Après, la question va être, est-ce qu'ils vont vraiment est transféré dans la société colombienne, ou est-ce que le fait d'avoir été aussi longtemps avec les armes va les conduire à intégrer d'autres structures armées, des bandes, etc.
Oui, certains peuvent être tentés, effectivement, en cas d'échec, de rejoindre d'autres groupes armés, et il en existe en Colombie. Votre dernière question, Armel.
Oui, donc je disais, que prévoit cet accord pour mettre fin au trafic de drogue utilisé pour financer cette guérilla allemande.
Alors là aussi, c'est une vaste question, Olga González, on est un peu pris par le temps. C'est vrai que le trafic de drogue a longtemps alimenté ce conflit.
Tout à fait, ça a été une des ressources pour les FARC. Néanmoins, l'accord de paix prévoit dans le point numéro 2 une politique de substitution des cultures de coca faite en accord avec les FARC. Le problème, c'est que le pic, il est fait, aussi bien au niveau de la culture, de la transformation que de la commercialisation et exportation par plein d'autres acteurs mafieux. Donc le problème du narcotrafic, même s'il a voulu être conçu et attaqué dans ces accords de paix, sera, à mon avis, un des problèmes majeurs. Et là, à nouveau, peut-être que les issues pour ce problème devront être plus globales. Il faudra tenir compte du fait que c'est une marchandise qui bénéficie d'une grande marge de... fait un bénéfice énorme parce qu'elle est payée très cher dans les pays du Nord. Et tant que ça continuera, ça sera très difficile d'éradiquer vraiment le problème du narcotrafic.
Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Olga González, d'avoir répondu à quelques-unes des questions que nous avons reçues sur cet accord de paix conclu, signé donc lundi en Colombie. On aura l'occasion dans les prochains jours, évidemment, de continuer à revenir sur cette actualité. On va s'intéresser à la Turquie avec des questions qui nous arrivent de Lomé. Bonjour Saint-Marc.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes au Togo, on vous écoute.
Merci beaucoup, Juan Gomez. Permettez que je dise bonjour à toute votre équipe et aux millions d'auditeurs qui vous écoutent à travers le monde, notamment à ceux de Plégou.
Écoutez, merci pour l'équipe sans qui je ne pourrais pas évidemment vous présenter cette émission. Vous avez des questions concernant la rentrée scolaire en Turquie?
Oui, effectivement. Nous avons appris sur les médias que d'autres nouveaux milliers d'enseignants ont été limogés suite au coup d'État manqué contre le président Erdogan. Et à ce sujet, j'aimerais savoir quelle incidence ce limogeage a sur la rentrée qui vient de démarrer en Turquie.
Ah, c'est vrai que la rentrée scolaire a eu lieu la semaine dernière et que 27 000 enseignants ont été licenciés et près de 10 000 autres ont été relevés temporairement de leurs fonctions dans le cadre de ces fameuses purges après le coup d'État raté de juillet dernier. Nicolas Monceau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Turquie, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Il faut quand même préciser à nos auditeurs que tous ces enseignants sont accusés ou soupçonnés d'être gulenistes, c'est-à-dire d'être des sympathisants de Fethullah Gulen, qui est le chef religieux accusé par le pouvoir d'avoir organisé le coup d'État raté de juillet dernier.
Oui, tout à fait. C'est les enseignants qui ont été licenciés de l'éducation nationale en Turquie ou qui sont suspendus sont accusés ou soupçonnés d'avoir des liens étroits avec les putschistes qui ont donc tenté de réaliser un coup d'État militaire le 15 juillet. Et le nombre d'enseignants d'ailleurs qui a été suspendu ou licencié est encore plus élevé aujourd'hui parce qu'on estime entre 40 000 et 50 000 postes d'enseignants en Turquie qui seraient vacants.
Et du coup, quelle incidence donc sur les cours, sur la rentrée scolaire?
Alors, il y a eu plusieurs incidences. D'ailleurs, durant l'été, il y a eu tout un débat sur la nécessité de reporter la date de la rentrée scolaire afin de pouvoir justement recruter de nouveaux enseignants et de répondre à la pénurie des postes laissés vacants. Finalement, la rentrée est intervenue à la date prévue, c'est-à-dire le lundi 19 septembre. Pour les milieux enseignants, il y a de fortes inquiétudes en ce qui concerne les conséquences de ces licenciements. Le président du syndicat des enseignants d'Istanbul, par exemple, a déclaré lors de la rentrée que l'année scolaire pourrait être un chaos généralisé. en raison de la pénurie du corps enseignant. La conséquence est la suivante. Et aujourd'hui, soit ces enseignants n'ont pas encore été remplacés, et par conséquent, donc il y a une pénurie des enseignants dans l'éducation nationale, soit ces enseignants ont été remplacés en partie par de nouveaux enseignants qui pourraient être aussi inexpérimentés. Ce que pointait en particulier, soulignait ce responsable syndical, est que la conséquence pourrait être une dégradation de la qualité de l'éducation en raison donc de l'inexpérience des enseignants qui auraient été recrutés suite à ces licenciements.
Ouais. Merci Nicolas Monceau d'avoir répondu à Saint-Marc, qui nous appelait donc de Lomé, au Togo. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie, que vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux. Vos questions au standard, elles nous arrivent, elles sont nombreuses. 33 9 693 693 70. Bonjour Fiston.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les techniciens de RFI particulièrement.
Merci pour eux, Boris Vichit ce matin à la technique et Arès Iradag également présent ce matin. Vous avez des questions sur l'Afghanistan, vous avez écouté une information sur RFI, notamment sur un accord de paix qui a été signé en Afghanistan avec l'un des pires criminels de guerre du pays.
Exactement, monsieur Juan Gomez. Le gouvernement afghan a signé un accord de paix avec l'un des pires criminels de ce pays. Pourquoi un accord entre Ekmatyar est responsable d'atrocité?
Ah, pourquoi signer un accord avec Ekmatyar, c'est son nom, alors qu'il est même surnommé le boucher de Kaboul? C'est une très bonne question. Gilles Bocquera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez notamment coordonné un ouvrage paru en début d'année aux éditions L'Harmattan, l'Afghanistan dans son environnement régional. Gulguddin Ekmatyar, ce nom parle très certainement à beaucoup de nos auditeurs, ceux qui écoutaient RFI dans les années 90. D'abord, d'où lui vient, en quelques mots, ce nom de boucher de Kaboul?
C'est-à-dire qu'au moment de la guerre civile entre 92 et 96, il y a eu un accord pour un gouvernement de coalition entre les forces du commandant Massoud et celles de Gulbuddin Ekmatyar, et cet accord a rapidement capoté et effectivement Gulbuddin Ekmatyar s'est livré à un certain nombre d'actions de bombardement sur la ville de Kaboul et responsable finalement de la mort de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes.
Et aujourd'hui donc le gouvernement, les autorités signent un accord de paix avec donc ce criminel. Pourquoi?
Oui, le respect des droits de l'homme n'a jamais été une condition sine qua non pour faire évoluer dans la sphère gouvernementale. Je rappellerai certainement le cas du général Dostum, qui est actuellement vice-président du pays. Mais c'est vrai que au nom de la réconciliation nationale, on peut passer l'éponge sur un passé sanglant. Alors pourquoi faire cet accord avec Matière, qui finalement est à la tête d'un parti qui militairement sur le terrain ne représente plus grand-chose? C'est surtout symbolique politiquement. Ça permet au gouvernement de Kaboul de bien montrer qu'il est possible de s'entendre avec lui, et finalement c'est un signe en direction des talibans, en espérant que des factions talibanes pourraient tenter elles aussi de passer un accord avec le gouvernement.
Ouais, enfin les talibans qui menacent aujourd'hui réellement la sécurité en Afghanistan, tout comme d'ailleurs l'organisation de l'État islamique. Comment réagit-on sur place quand on sait que Ekmatyar a quand même tué des milliers de personnes, qu'aujourd'hui il obtient donc une sorte d'impunité, d'immunité pour tous les crime qu'il a commis, j'imagine que la population doit être en colère.
Oui, non seulement une partie de la population, mais aussi les alliés au gouvernement de Ashraf Ghani. Faut pas oublier qu'il fait partie d'un gouvernement de coalition après un accord passé avec Abdullah, donc les Tadjiks de l'Alliance du Nord, qui eux étaient tout à fait hostiles, pour la raison que je disais tout à l'heure, c'était qu'Ekmatyar avait combattu Massoud au début des années 90. Donc il a fallu plusieurs mois de négociations très difficiles, passer outre et obtenir finalement une conciliation avec Abdullah pour signer cet accord avec Ekmatyar. Mais c'est vrai que la pilule a, pour un certain nombre de personnes, du mal à passer.
Effectivement, notamment pour les habitants de Kaboul et pour un certain nombre d'ONG, de défense des droits de l'homme. Gilles Bocquera, merci d'avoir été avec nous. D'autres questions à la rédaction demain, à suivre le journal, et on revient dans 10 minutes. On parlera de la Côte d'Ivoire et de la révision constitutionnelle. Et oui, le débat commence dès aujourd'hui en Conseil des ministres.